Bonsoir à tous. Je vais donc vous présenter la deuxième partie de notre présentation de la philosophie d'Edmond Husserl, intitulée « La rencontre de l'autre, ça marche comment ?». Donc exceptionnellement, je vais faire une présentation spéciale pour le podcast, pour que la présentation soit plus fluide, plus compréhensible, et que je puisse inclure des extraits de texte, ce que je n'ai pas fait en présentiel, ce qui aurait trop alourdi l'exposé. Pour commencer, la principale critique qui a été faite à Husserl de son vivant, et qui continue aujourd'hui, c'est celle de ce qu'on peut appeler l'objection du solipsisme. Le reproche que sa philosophie finalement serait une philosophie de la solitude, si comme on l'a vu, le fait de viser le monde de façon personnelle, d'avoir sa propre intention, est à l'origine de la constitution de ce propre monde, ce que Maurice Merleau-Ponty appelle notre monde privé, finalement est-ce que nous ne serions pas seuls dans notre monde, seuls à inventer les choses et seuls à inventer l'autre ? Husserl s'est radicalement opposé à cette vision, à cette critique, et notamment il a développé son idée de la rencontre de l'autre, notamment dans la cinquième méditation cartésienne, issue du petit livre que je vous conseille si vous voulez lire Husserl pour la première fois, qui s'appelle Husserl, les méditations cartésiennes, introduction à la phénoménologie. Et si vous voulez une entrée en matière plus douce, je vous conseille le livre d'Emmanuel Housset intitulé Husserl et l'énigme du monde, où il fait une présentation de sa philosophie, qui c'est toujours une approche intéressante en introduction avant de lire l'auteur qui reste difficile à lire. Alors Husserl, s'il se défend de cette accusation de solipsisme, défend par contre ce qu'il appelle l'égologie. Alors chez Husserl, la notion d'ego n'a rien de péjoratif, hein, comme on peut avoir une utilisation de ce terme un peu critique, il a trop d'ego, je n'aime pas ceux qui ont l'ego, etc. Chez Husserl, évidemment, ça n'est pas, l'ego n'a aucun sens péjoratif, l'ego c'est moi, c'est ma personne. Et il dit avant tout, pour aller rencontrer l'autre, il faut d'abord s'étudier soi-même. Et c'est très important pour la suite. Alors souvent cette notion de s'étudier soi-même est présente dans le soin, dans les enseignements. En sciences humaines, il y a cette notion de réflexivité. C'est toujours un peu la cerise sur le gâteau. On fait quelques colloques ou quelques réunions sur le thème, mais par contre dans la pratique, soit de soins, soit la pratique de recherche en sciences humaines, très rapidement dans les écrits, il est très rare que le chercheur prenne un temps au départ pour expliquer sa position, pour expliquer son histoire et expliquer au lecteur comment il regarde la réalité. Chez Husserl, cette notion de s'étudier soi-même, elle est centrale. C'est pas une anecdote, c'est pas le petit truc de quelques réunions, c'est la moitié du travail de la rencontre de l'autre. Ainsi, il va travailler à ce qu'il appelle une théorie transcendantale de l'expérience de l'autre. Transcendantale, ce n'est pas un terme compliqué. Transcendantale, ça veut dire celui qui crée le monde. Le transcendantal classique, c'est Dieu dans notre culture. Dieu est celui qui crée le monde. Pour Husserl, nous l'avons vu dans la première présentation, le transcendantal, c'est l'ego. L'ego transcendantal qui crée les choses. Donc là, Husserl travaille à une théorie transcendantale de l'expérience de l'autre. Comment finalement je vais créer l'autre? Cette théorie vise à expliquer la façon dont je constitue moi-même l'autre, mon autre, ce qu'on va appeler l'empathie, mais aussi dans quelle mesure j'ai accès à sa réalité. Hein, donc il y a les deux choses. À la fois, je constitue l'autre, cette constitution elle existe aussi pour l'autre, et donc il va expliciter encore comment fonctionne cette constitution, mais dans le même temps, s'interroger sur en quoi et jusqu'où j'ai accès à la réalité de l'autre, ce qui sort de la question du solipsisme. Et poussé dans cet élan, il va faire une théorie transcendantale du monde objectif. La fois précédente, nous avons vu sa critique de l'objectivisme. Il dit de façon très claire, l'objectivité n'existe pas et n'existera jamais, en tout cas dans le sens où on l'entend dans notre société. Mais là, il va redéfinir le terme dans la vision transcendantale. Finalement, comment je vais créer l'objectivité? Alors, pour rencontrer l'autre, il faut s'étudier soi-même. Pour s'étudier soi-même, il faut étudier ce qu'il appelle le monde primordial. Pour connaître l'autre, il faut s'étudier soi-même, il faut étudier ce qui est propre à moi, à mon ego, tout ce que Husserl désigne par le thème de monade. Le terme de monade est un terme qui est utilisé aussi par le philosophe Leibniz. Merleau-Ponty, lui, parle du monde privé, notre monde privé. Donc nous pouvons imaginer une sorte de sphère d'appartenance, comme un petit monde propre qui nous appartient, notre petit monde, notre petite planète, constitué par mes intentions envers les autres et par toutes mes intentions envers les choses en général. Ainsi, pour saisir l'autre, il faut pratiquer ce que Husserl appelle la réduction primordiale. Nous avons vu la réduction phénoménologique, où on met entre parenthèses le monde pour se concentrer sur le phénomène qui apparaît. Nous avons vu la réduction éidétique, où l'idée c'est de faire varier par l'imaginaire un objet ou une personne pour en accéder à son essence. La réduction transcendantale, où l'idée c'est de se voir en train de constituer la situation. Et là, Husserl nous propose une quatrième réduction, la réduction primordiale, qui vise à mettre complètement hors jeu l'expérience de l'autre pour voir notre propre monde. Essayez de faire cet exercice de en quoi est constitué mon monde. Quelle est mon histoire? Qu'est-ce que je vise à l'accoutumer? Quels sont les phénomènes qui m'apparaissent dans mon quotidien, dans mon existence? Et voir comment se constitue, par tous ces horizons d'apparition et tous ces horizons de phénomènes, comment et de quoi est constitué mon monde personnel. Cet exercice de la réduction primordiale permet de voir ma propre nature, ce que je suis moi, ce que Husserl appelle ma chair, de l'allemand « lib », c'est-à-dire ma chair, ce n'est pas le corps physique, mais cet ensemble charnel donné par mes sens. La réduction primordiale invite à voir sur quoi je règne, sur quoi je suis souverain. Et ce qui est important, c'est que c'est à partir de tout ça, c'est à partir de quoi je vais voir l'autre. Je vais voir l'autre à partir de ce monde personnel. On peut comprendre alors que l'alter ego, l'autre, est pensé toujours à partir de ma sphère d'appartenance, par analogie. Donc l'autre apparaît finalement selon moi. Il apparaît différemment à Bernadette qui a une sphère d'appartenance différemment constituée. Le fait de comprendre que l'on est dans ce monde privé permet de concevoir l'existence de l'autre selon le même schéma, on pourrait dire par analogie. On voit l'autre systématiquement par analogie par rapport à ce que l'on est. L'autre, l'alter ego, l'autre ego, est finalement en quelque sorte un reflet de moi-même. L'autre ne peut avoir ce sens d'autre que en me l'empruntant, que par la qualité d'une sorte de reflet de moi-même que Husserl nomme l'analogon. Le sens d'autrui est emprunté au sens que je crée pour moi-même. Pour donner un sens à autrui, il faut avoir soi-même un sens. Par exemple, quand je vois quelqu'un rire, je reconnais le sens du rire pour moi. Il doit être joyeux. Je suis avant tout en capacité de voir chez l'autre le rire dans le sens que le rire a pour moi. On va voir de l'autre d'abord ce qui nous ressemble. Je lis un petit texte issu des méditations cartésiennes. Ce qui m'est spécifiquement propre à moi ego, c'est mon être concret en qualité de monade. Puis la sphère formée par l'intentionnalité de mon être propre. Cette sphère embrasse l'intentionnalité visant les autres au même titre que toute autre intentionnalité. Dans cette intentionnalité toute particulière se constitue un sens existentiel nouveau qui transgresse l'être propre de mon ego monadique. Il se constitue alors un ego non pas comme moi-même, mais comme se réfléchissant dans mon propre ego, dans ma monade. Mais le second ego n'est pas simplement là, ni à proprement parler donné en personne. Il est constitué à titre d'alter ego, et l'ego que cette expression désigne comme un de ces moments, c'est moi-même, dans mon être propre. L'autre, entre guillemets, renvoie, de par son sens constitutif, à moi-même. L'autre est un reflet de moi-même. Et pour autant, à proprement parler, ce n'est pas un reflet. Il est mon analogon, et pourtant, ce n'est pas un analogon au sens habituel du terme. Rentrons dans la notion d'empathie. Je présenterai mon exposé en quatre parties. L'empathie comme saisie analogisante, l'empathie comme accouplement originel, l'empathie par l'imagination et l'empathie par le dialogue et la réciprocité. Continuons sur cette notion d'empathie par la saisie analogisante que l'on vient d'aborder. Certes, l'autre apparaît par ce que je suis comme finalement un reflet. L'autre apparaît en partie comme le reflet de moi-même. Mais pour qualifier la rencontre de l'autre, Husserl utilise aussi cette expression de « en chair et en os ». L'autre en chair et en os, cela signifie bien que voir apparaître cet autre devant moi n'est pas seulement un moment de mon être à moi, il apparaît devant moi son corps chair, libre, qui n'est pas simple corps pour moi. Moi-même et lui-même ne sommes pas les mêmes. Cela n'empêche pas que le corps d'autrui acquiert son sens de corps charnel à la faveur d'un transfert intentionnel de sens à partir du mien. L'autre n'est pas un simple reflet, car il est bien là en chair et en os. Donc il faut voir qu'il y a ces deux dimensions dans l'apparition de l'autre pour Husserl. L'autre apparaît comme un reflet de moi-même, puisque je le vois toujours à partir du sens que j'ai des choses, mais en même temps, force est de constater que l'autre est bien là en chair et en os. Husserl accepte complètement cette idée que l'autre soit là en chair et en os, accessible à mes sens. Donc finalement, pourrait-on dire, entre l'autre et moi, il y a une sorte de coexistence. Une coexistence, mais de deux êtres qui ne peuvent jamais être là dans toute leur entièreté. La rencontre des deux êtres est un acte qui les rend coprésents. Mais cette coprésence est dans une, Husserl utilise le terme, une aperception. Une aperception par analogie. C'est un transfert intentionnel de sens à partir du mien. On est bien là ensemble, mais l'autre n'est pas là en personne, mais comme il m'apparaît à moi. L'autre est toujours là, comme il m'apparaît à moi. Il est bien là en chair et en os. Mais je le perçois sans le percevoir dans son entièreté. Cet autre devant moi en chair et en os, je le perçois jamais dans son entièreté. Je le perçois toujours de façon partielle, en un mot, je l'aperçois. C'est la perception. Face à l'autre, nous sommes toujours dans une aperception. Husserl appelle cela encore la présentation. Comme un cube s'apprésente à nous, c'est-à-dire que le cube, on voit ce qui est présent face à nous, mais on devine qu'il a une face cachée. Donc il n'est pas une présentation entière, ni une représentation, car il est bien là en chair et en os. Il y a une apprésentation qui laisse imaginer qu'il y a une face arrière du cube, mais sans que j'aie la possibilité de passer derrière lui, derrière l'objet. Le cube, ou l'alter ego, est fondamentalement apprésentation pour moi. Et donc évidemment, cette lettre A, ce A privatif, est une lettre qui va tout changer. Et du coup, dans la relation thérapeutique aussi, le patient est toujours une aperception et s'apprésente toujours à moi. Évidemment, du coup, attention au diagnostic. Le diagnostic est toujours une hypothèse qui va de soi. Le diagnostic est toujours... a toujours attrait finalement à ce qu'on appelait la dernière fois une attitude naturelle, quelque chose qui irait de soi, alors que c'est une hypothèse qui vient de moi. Donc Husserl, dans l'empathie, donne beaucoup d'importance à cette analogie perceptive. Si je peux concevoir cet autre corps comme authentique organisme par sa ressemblance, par analogie, ce n'est pas pour autant un simple raisonnement par analogie, un acte de pensée, c'est un acte perceptif d'une coprésence en chair et en os. Pour Husserl, seule la ressemblance perceptive unissant le corps de l'autre à mon propre corps fournit l'élan, la voie vers la saisie analogisante du corps de l'autre comme corps charnel. Quand un patient entre dans mon cabinet, certes, je peux me le représenter. Oui, je peux croire naïvement qu'il se présente à moi dans son évidence naturelle, mais il est en fait à présenter. Je peux avoir dans une certaine mesure accès à lui, la rencontre est possible, une certaine saisie de lui est possible dépendamment de mon histoire, de mes rencontres précédentes, mais il est là avec moi toujours flanqué de sa face cachée, irréductiblement à présenter. Il ne demeure que mon reflet, mais un peu plus que mon reflet puisque je le perçois en chair et en os. Je vous lis un deuxième extrait des méditations cartésiennes. L'expérience est un mode de conscience où l'objet est donné en original. En effet, en ayant l'expérience d'autrui, nous disons en général qu'il est lui-même, en chair et en os, devant nous. D'autre part, ce caractère d'en chair et en os ne nous empêche pas d'accorder sans difficulté que ce n'est pas l'autre moi qui nous est donné en original, non pas sa vie, ses phénomènes eux-mêmes, rien de ce qui appartient à son être propre. Car si c'était le cas, si ce qui appartient à l'être propre d'autrui m'était accessible d'une manière directe, ce ne serait qu'un moment de mon être à moi. Et en fin de compte, moi-même et lui-même ne serions les mêmes. Il en serait de même de son organisme s'il n'était rien d'autre qu'un corps physique, unité se constituant dans mon expérience réelle et possible, et qui appartient à ma sphère primordiale comme formée exclusivement par ma sensibilité. Il doit y avoir ici une certaine intentionnalité médiate, partant de la couche profonde du monde primordial, qui, en tout cas, reste toujours fondamentale. Cette intentionnalité représente une coexistence, qui n'est jamais et qui ne peut jamais être là en personne. Il s'agit donc d'une espèce d'acte qui rend co-présent, d'une espèce d'aperception par analogie que nous allons désigner par le terme d'apprésentation. Nous venons voir l'empathie dans le sens de la saisie analogisante. Passons au deuxième point, l'empathie par l'accouplement originel. Pour Husserl, l'ego et l'alter ego sont donc toujours et nécessairement donnés dans une configuration en couple, relation et mise en lien de deux dynamiques corporelles. La rencontre de l'autre tient toujours d'un co-sentir et d'un échange de sens. Évidemment, la rencontre de quelqu'un dans la rue. Évidemment, la rencontre d'un patient dans la salle de soins. Mais évidemment aussi, lors d'une soirée, quand nous sommes tous autour d'une table, toujours mon attention est dirigée vers l'un de la table. Il y a toujours un échange avec une personne. Je suis toujours dans ces moments collectifs, accouplé, avant tout avec une personne. Donc pour connaître l'autre, pour le soigner, il faut l'avoir non seulement devant soi, mais faire couple, relationner. Et du coup, attention aux situations de soins où l'autre est à moitié absent. On pense à la téléconsultation, ou pire à la télé-expertise, où le travail sur le patient est fait sans que le patient soit présent. La télé-expertise, c'est quand un médecin peut demander un avis à un autre médecin, en dehors de la consultation médicale, notamment par les techniques Internet. Donc chaque expérience de l'autre dans cet accouplement se rapporte à d'autres de mes expériences qui confirment et réalisent ce qui est signifié dans nos horizons d'appréhension. Quand je vois l'autre pleurer, cela confirme que quand moi je pleure, je ressens telle sensation. Ainsi, je comprends mieux ce que vit la personne. Donc la perception d'autrui est la saisie de son expression en tant que règne sur sa chair. Alors l'accouplement entre moi et autrui tient de cette expressivité, dans l'appariement de deux « je me », c'est-à-dire de deux « je bouge ». L'accouplement entre moi et autrui tient de cette expressivité dans l'appariement de deux êtres qui bougent, qui sont un mouvement, dans un perpétuel mouvement. Et tout à fait unique et singulier, où les donations de moi et d'autrui sont de même hauteur, se répondant l'une à l'autre comme dans un effet de résonance. On voit là l'analogie avec la danse. Husserl décrit deux êtres qui vont être dans un co-mouvement, où le mouvement de l'un va générer le mouvement de l'autre, où l'expression de l'un va générer l'expression de l'autre, qui régénère l'expression de l'un, qui régénère l'expression de l'autre, comme deux danseurs. Chaque moment de cette rencontre amène des expressions nouvelles qui font intervenir des changements de mimique d'expression qui elles-mêmes appellent de nouvelles expressions. Cette coprésence, cet accouplement nécessite une horizontalité de la rencontre, une rencontre de même hauteur pour que la danse soit possible. Le fonctionnement de la relation et le fonctionnement de la relation médicale, si elle est verticale, si elle est descendante, si elle est dans une autorité, serait pour Husserl une sorte de maladie relationnelle. En guérir serait de travailler une relation par association, par accouplement, qui permettrait l'accueil, qui ménagerait les contrastes, la réceptivité, la résonance immédiate effective, une relation qui autoriserait les différences, les écarts, la liberté de l'un par rapport à l'autre. Nous avons vu l'empathie par la saisie analogisante. Nous avons vu l'empathie par l'accouplement originel. Parlons maintenant de l'imagination. Le recours à l'imagination dans la théorie de l'empathie d'Husserl, dans la façon dont il pense la rencontre de l'autre, est très importante. Nous en avons parlé la fois passée. Edmond Husserl appelle pour rencontrer l'autre à solliciter notre imagination. L'imagination permet la transposition entre là-bas et l'ici, de nous transposer vers l'autre. C'est comme si j'étais là-bas. L'imagination, c'est faire cet exercice. Que se passerait-il si j'étais là-bas à sa place? L'autre est pourvu de phénomènes tels que je pourrais en avoir si j'allais là-bas à la place qu'il occupe. Husserl l'invite à ce travail par l'imaginaire. Allez se mettre à la place d'eux. Allez se mettre à la place d'eux, et si je suis à la place de cet autre que je vois, comment, quel phénomène m'apparaîtrait à mon avis? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, l'emploi de l'imagination est complètement subordonné à la perception des mouvements du corps d'autrui. Nous revenons au corps en chair et en os. L'imagination n'est pas simplement liée au fait de se faire une image du point de vue d'autrui. Il est plus que là, plus que ça. Il est allé se mettre à la place de l'autre pour percevoir à sa place comment les choses m'apparaîtraient. Cela paraît de l'évidence, mais c'est aussi souligner la différence entre imaginer quelqu'un de présent et imaginer quelqu'un d'absent. Imaginer quelqu'un d'absent, on le fait régulièrement dans les commentaires sur les uns sur les autres. Prenons un exemple un peu trivial, Emmanuel Macron, notre président, je pourrais être parfois, en imaginant qui il est, dire « de toute façon, Emmanuel Macron ne pense qu'aux plus riches ». Donc, évidemment, je n'ai jamais rencontré Emmanuel Macron. Quand je fais des commentaires sur lui, c'est des commentaires sur quelqu'un qui est absent. Et je peux faire ce commentaire « Emmanuel Macron ne pense qu'aux plus riches ». Mais si Emmanuel Macron était présent devant moi, si je fais ce même exercice d'imaginer ce qui pense ce qu'il fait, je pourrais lui dire « Monsieur Macron, vous ne pensez qu'aux riches ». Et alors là, il y aurait une réaction. Soit il aurait un sourire cynique et dire « Effectivement, je ne pense qu'aux riches ». Et là, on serait conforté. Ou alors, il pourrait être affecté, pâlir et dire « Mais non, pas du tout, je suis le président de tous les Français, j'essaie de faire mon travail, etc. » Et du coup, on se reparamétrerait. On s'adapterait à ce mouvement dansé qui s'amorce. Donc l'imagination dont parle Husserl, c'est l'invitation à se mettre à la place de l'autre, mais toujours subordonnée à la perception de ses mouvements et de sa propre chair. Si je peux, par l'imagination, aller essayer de percevoir qui est autrui là-bas, si j'étais à sa place, autrui n'est pas pour autant dans un endroit quelconque issu de l'imagination à partir de mes sens. Il n'est pas que ce reflet du miroir, il est là-bas, c'est un analogon mais perçu de l'extérieur. L'imagination a alors un ancrage perceptif. Le là-bas n'est pas n'importe quel lieu de l'espace, c'est de façon actuelle une seconde chair, le point précis où immerge un point de rupture avec ma propre primordialité. Quand nous faisons les cercles en forêt à chaque saison, nous proposons un travail par l'imaginaire. Nous proposons aussi d'aller par l'imaginaire voyager dans le monde d'en bas, le monde d'en haut, pour travailler des questions et des intentions. Mais on le voit bien, ce travail est conditionné, et c'est tout son intérêt, par les perceptions de la situation, par les perceptions du lieu dans lequel nous sommes. Les perceptions de ce qui se dit ou ce que propose l'animateur, de ce qui est vu, entendu, touché dans la forêt. Il est une sorte d'appariement de deux univers. Et du coup, l'opportunité d'ouvrir le champ sur la réalité des choses. Nous avons vu l'empathie dans la saisie analogisante. Nous avons vu l'empathie par l'accouplement originel. Nous avons vu l'empathie par le dialogue et l'imagination. Et maintenant, voyons l'empathie par la réciprocité, par le dialogue. C'est une autre grande dimension de la théorie du Searle. Cela reprend un peu ce que l'on vient de dire. L'empathie, pour qu'elle soit bien réalisée, est de l'ordre du dialogue. Chacune de ces compréhensions d'autrui que j'effectue par analogie crée de nouvelles associations et ouvre de nouvelles possibilités de compréhension. Chacune de ces compréhensions d'autrui crée de nouvelles compréhensions qui amènent à être attentif d'une nouvelle façon. Il est un auteur que nous aimons beaucoup, David Abraham, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment la Terre s'est-tue ». David Abraham a une démarche un peu similaire à la nôtre, dans la mesure où il commence son travail par la philosophie du Searle et par la philosophie de Merleau-Ponty. Je vous lis un extrait qui illustre cette notion de dialogue, un extrait de son livre. « Lorsque mon corps répond de la sorte à la sollicitation muette d'un autre être, cet être répond à son tour, révélant à mes sens de nouveaux aspects ou de nouvelles dimensions qui à leur tour m'invitent à une exploration accrue. Au cours de ce processus, mon corps s'entend s'accorde progressivement au style de cette autre présence, à la manière de cette pierre, de cet arbre ou de cette table, alors qu'elle-même semble s'ajuster de son côté à mon style et à ma sensibilité. De cette façon, la chose la plus simple peut devenir un monde pour moi, alors que réciproquement, cette chose ou cet être en vient à prendre place plus profondément dans mon monde. La perception dans l'œuvre de Merleau-Ponty est précisément cette réciprocité, cet échange permanent entre mon corps et les entités qui l'entourent. C'est une sorte de conversation silencieuse que je mène avec les choses, un dialogue continuel qui se déploie bien en deçà de ma conscience verbale et souvent même indépendamment d'elle. Ce que nous dit David Abraham, c'est que chaque compréhension réussie d'autrui permet de me comprendre en retour par la réversibilité inhérente à l'accouplement, à l'appariement, en me dévoilant les horizons de ma propre existence charnelle et psychique, notre vie charnelle s'enrichit constamment. La philosophie d'Edmond Husserl est une philosophie de la réciprocité. Je vous répète cette phrase. Chaque compréhension réussie d'autrui permet de me comprendre en retour par la réversibilité inhérente à l'accouplement, à l'appariement, en me dévoilant les horizons de ma propre existence charnelle et psychique. Notre vie charnelle s'enrichit constamment. Cette réciprocité dans la relation est très inspirante pour le soin. Comprendre l'autre permet de se comprendre en retour. Comprendre le désespoir de l'autre, c'est être enseigné sur mon propre désespoir. Comprendre ce que l'autre espère pour mieux vivre, c'est en retour comprendre ce que moi j'espère pour mieux vivre. On pourrait avoir une sorte de gratitude du soignant pour le soigné. Nous avons vu donc la théorie du Searle de l'empathie dans la relation à l'autre. Alors, non seulement sa théorie n'est pas une théorie de la solitude, parce qu'il y a une vraie capacité à à être en lien avec, avec l'autre, qui est plus qu'un reflet puisqu'il apparaît charnellement dans la relation de, d'accouplement, Husserl étend aussi sa réflexion à la communauté. L'empathie, notre capacité ne se limite pas à s'accoupler avec un autre, mais à s'accoupler avec d'autres, à faire communauté, à faire communion. La coprésence, l'accouplement et le dialogue font qu'une communauté d'hommes est effectivement possible. La communauté d'hommes implique pour bien-être, j'insiste sur le bien-être, la réciprocité que l'on vient d'évoquer. Une assimilation qui place mon être et celui de tous les autres sur le même plan. Les hommes ne peuvent s'appréhender que comme trouvant d'autres hommes autour d'eux. On se comprend en tant qu'homme, on se vit en tant qu'homme, on forme notre monde primordial d'hommes en appréhendant, en se trouvant au contact des autres hommes. Le contact des autres hommes nous nourrit en tant qu'homme. La théorie de l'empathie d'Husserl ne se réduit pas à la seule saisie analogisante. Il ne suffit pas de poser l'existence d'une autre monade pour que l'explication de l'expérience étrangère soit pleinement accomplie. Chez Husserl, l'ego ne possède aucune sorte d'hégémonie sur l'alter-ego, telle que pourrait le laisser entendre la seule analogie. L'autre n'est pas seulement un effet de sens qui découlerait de mes propres capacités intentionnelles. La théorie husserlienne de l'empathie est une théorie de la réciprocité au sens fort du terme, une réciprocité entre les humains qui se reconnaissent comme tels et qui vont faire couple et relationner. Alors, sur la base d'un partage d'expérience se constitue l'être commun de la communauté. Sur la base du partage d'expérience se constitue une nature commune, une nature constituée. Et du coup, idée très intéressante, si on veut élargir notre vision du monde, c'est auprès des anormaux qu'on peut apprendre plus sur le monde. C'est auprès de ce qu'Husserl appelle les anormaux que l'on peut élargir notre monde bien plus qu'auprès de ceux qui nous ressemblent. Husserl nous invite pour vivre plus largement à aller vers les anormaux, ceux qui ne sont pas dans la norme, vers les différents. Il en cite trois, les enfants, les fous et les animaux. On a tous fait l'expérience de la richesse de se mettre dans cette relation de réciprocité avec l'enfant. Quitter le lien descendant, le lien d'autorité, pour être en pleine présence de l'enfant, dialoguer, être dans cet échange corporel, et du coup apprendre de ce monde de l'enfance. On a expérimenté bien des fois à l'ethnocafé l'intérêt de converser avec les fous, en tout cas ceux qui sont désignés comme tels par la société, et voir l'ouverture de l'espace à ce moment-là. On aime aussi accueillir Zorban, le chien qui régulièrement vient aux soirées de l'ethnocafé, et goûter ce qui se passe dans le regard de ce chien. Et on a envie d'aller un pas de plus, citer une autre catégorie d'anormaux qui sont les végétaux et les arbres. Bon, nous avons une tendresse, un intérêt particulier pour les arbres, parce que finalement, le végétal ou l'arbre, quoi d'autre est plus anormal pour un humain que de dialoguer avec un arbre? C'est-à-dire anormal au sens de quelque chose qui n'est pas dans la norme humaine. La norme humaine, c'est de dialoguer avec son proche, son voisin. Mais quand on est invité à dialoguer avec un arbre, au sens que l'entend David Abraham, quand on porte notre attention, nos sens sur l'arbre, et que cet arbre répond par la présence, évidemment, l'enseignement, entre guillemets, est bien plus large que ce que l'on peut apprendre de ses proches et de ceux qui nous ressemblent. Je vous relis un extrait des méditations cartésiennes. Le sens d'une communauté des hommes, le sens du terme « homme », qui en tant qu'individu déjà est essentiellement membre d'une société, ce qui s'étend aussi aux sociétés animales, implique une existence réciproque de l'un pour l'autre. Cela entraîne une assimilation objectivante qui place mon être et celui de tous les autres sur le même plan. Moi et chaque autre, nous sommes donc hommes entre autres hommes. Si je m'introduis en autrui par la pensée, si je pénètre plus avant dans les horizons de ce qui lui appartient, je me heurte bientôt au fait suivant. De même que son organisme corporel se trouve dans mon champ de perception, de même le mien se trouve dans son champ à lui, et généralement il m'appréhende tout aussi immédiatement comme autre pour lui que moi je l'appréhende comme autre pour moi. Je vois également que la multiplicité des autres s'appréhende réciproquement comme autre, mais comme se rapportant à tous ceux qui sont des autres pour lui et donc, en même temps immédiatement, à moi-même. Il est également clair que les hommes ne peuvent être appréhendés que comme trouvant, en réalité ou en puissance, d'autres hommes autour d'eux. La nature infinie et illimitée elle-même devient alors une nature qui embrasse une multiplicité illimitée d'hommes, et donc plus généralement d'animalia, distribués on ne sait comment dans l'espace infini, comme sujet d'une intercommunion possible. Ce travail sur l'apparition de la communauté nous ramène à la notion de l'objectivité. Une communauté de monades est donc constituée par une intentionnalité commune. Une communauté d'hommes devient communauté si les hommes se retrouvent dans une façon commune de viser les choses. La communauté d'hommes constitue, par une intentionnalité commune, un seul et même monde, tirant son existence des sources de notre propre sensibilité. Le monde se constitue par notre capacité à une intentionnalité commune. Et le monde objectif est donc cette expérience intersubjective idéalement concordante. Une expérience mise en commun dans l'intersubjectivité. Nous arrivons là dans la théorie transcendantale du monde objectif. Comment nous constituons le monde objectif ? Husserl nous le dit, le monde objectif est cette expérience intersubjective idéalement concordante. Le monde objectif est une expérience mise en commun dans l'intersubjectivité. L'objectivité prend un sens différent de celui que l'on entend d'habitude. Je relis Edmond Husserl dans les Méditations cartésiennes. L'intersubjectivité transcendantale possède, grâce à cette mise en commun, une sphère intersubjective d'appartenance où elle constitue d'une manière intersubjective le monde objectif. Elle est ainsi, en qualité d'un nous transcendantal, sujet pour ce monde et aussi pour le monde des hommes, forme sous laquelle ce sujet se réalise lui-même comme objet. Nous distinguons une fois de plus la sphère d'appartenance intersubjective et le monde objectif. Toutefois, en me plaçant comme égaux sur le terrain de l'intersubjectivité constituée, en parlant de sources qui me sont essentiellement propres, je dois reconnaître que le monde objectif ne lui est plus, à proprement parler, transcendant, c'est-à-dire ne transcendant pas sa sphère d'appartenance intersubjective. Le monde objectif lui est inhérent en qualité de transcendance immanente. Plus précisément, le monde objectif comme idée, comme corrélatif idéal d'une expérience intersubjective idéalement concordante, d'une expérience mise en commun dans l'intersubjectivité. Ce monde doit par essence être rapporté à l'intersubjectivité constituée elle-même comme idéal d'une communauté infinie ouverte, dont les sujets particuliers sont pourvus de systèmes constitutifs correspondant les uns aux autres et s'accordant les uns avec les autres. Nous arrivons à la notion d'harmonie, notion très importante. La constitution du monde objectif comporte essentiellement ce que Husserl appelle une harmonie des monades. Une constitution harmonieuse particulière, dans chaque monade, un accord des sujets les uns avec les autres, les uns pour les autres. La constitution d'une nature commune est possible par la complémentarité, l'harmonie possible entre deux points de vue. Cette harmonie des monades vient d'une intention commune de vivre une expérience. L'harmonie des monades vient d'une intention commune de vivre une expérience. Par cette vue, et c'est très important, l'objectivité est issue de l'harmonie. L'objectivité est issue de l'harmonie. Le monde se crée dans sa réalité par notre capacité à être en harmonie. Si nous sommes dans cette rencontre de l'autre, si nous sommes en capacité de cette danse, de cet échange d'expression, alors nous sommes en capacité d'une visée commune, d'une intentionnalité commune, alors dans cette harmonie de la danse naît l'objectivité. La théorie transcendantale du monde objectif, c'est-à-dire la théorie de comment nous créons le monde objectif, la théorie de l'objectivité, dit Husserl, l'objectivité est une intersubjectivité transcendantale. L'objectivité est la création de l'intersubjectivité. L'intersubjectivité est possible si, par la relation harmonieuse des monades. L'harmonie crée l'objectivité. Évidemment, du coup, la disharmonie détruit le monde et fait disparaître le monde. Tout cela nous invite à notre propre méditation sur le soin. Le soin pourrait-il se créer, voire trouver une efficacité, par la capacité à être en harmonie entre le soignant et le soigné? Avoir, dans la relation thérapeutique, l'intention d'instaurer une harmonie. Avoir peut-être ce seul objectif dans certains cas, quand les choses sont compliquées, quand tout est mis en échec. Quand le patient chemine de thérapeute en thérapeute sans trouver le réconfort, sans trouver le bon soin. Peut-être une des solutions à ce moment-là est donnée par Husserl, avoir la seule intention d'instaurer une harmonie entre le soignant et le soigné, pour voir alors se constituer entre deux un monde objectif, leur monde objectif, pour permettre au patient de vivre qu'il existe un monde d'expérience pour nous. De fait, puisqu'il est construit là ensemble dans le secret du cabinet. Faire ressentir à la personne qui souffre qu'elle peut être à l'origine d'un monde. Oui, elle peut être à l'origine d'un monde, son monde. Là, le monde qui lui ressemble. Le monde qui est fait pour elle parce qu'il est créé par elle. Le monde qui est comme elle voudrait qu'il soit. Faire vivre à la personne qu'elle peut être dans un monde qui lui convient, puisqu'elle l'a créé, et elle peut être dans un monde avec un autre. Le tout par le seul fait de veiller à l'instauration d'une harmonie. Le tout dans le seul objectif d'être avec l'autre dans toute son essence, dans toute sa liberté, dans tout son être. Être juste là pour que son monde, le monde du patient, son être s'exprime, et si possible dans une intention commune avec moi, le soignant. Où une harmonie va créer un monde commun. Être bien dans son monde, mais encore mieux, être bien dans un monde commun aux soignants et aux soignés. Dans un monde réciproque où le soin de l'un finalement est conditionné au soin de l'autre. La réciprocité n'empêche nullement que la situation est dédiée au patient. On le voit bien dans ces situations d'échec, où on ne sait plus quoi faire, où on ne comprend pas, où on se dit les choses qu'on ne comprend pas. Le seul fait de veiller, d'instaurer cette relation harmonieuse, le seul fait d'être bien ensemble, d'être dans un échange fluide, d'être attentif à l'autre, ce fait-là permet souvent l'instauration d'une quelque chose qui se détend, quelque chose qui se libère. La personne va se retrouver, la personne va trouver l'opportunité de se réinvestir d'elle-même. La personne va se mettre en capacité de laisser émerger les possibilités d'elle-même, puisque c'est d'abord par elle-même qu'elle peut trouver ses possibilités, les possibilités qui lui conviennent. La personne va trouver la possibilité de laisser émerger les solutions issues de la situation commune créée par le soignant et le soigné. Sans autres mots que ceux de la situation, sans leçon, sans interprétation. Viser à soigner par cette harmonie implique de fait, dans certains cas, de renoncer à soigner dans une situation complètement disharmonieuse. Cette façon de viser l'harmonie invite aussi, en cas de disharmonie, à s'interroger sur la capacité à instaurer l'harmonie. Est-ce que là, finalement, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour instaurer une harmonie, pour être dans ce dialogue et pour être dans cette danse avec l'autre? Cette notion de l'harmonie, évidemment, est une voie thérapeutique rare, originale, mais forte. Et nous pourrions appliquer le même déroulé à la question politique. Instaurer une culture de l'harmonie plus que celle de l'accaparement ou de la survivance. Nous avons déjà écrit le livre « Anthropologie des rires noirs » sur ce thème. Voilà la fin de l'exposé arrivé sur cette rencontre de l'autre, sur comment elle fonctionne. Évidemment, nous voyons là que la philosophie du CERL est une philosophie qui invite à la liberté, à accorder à soi et à l'autre la liberté. Mais c'est aussi une responsabilité, une philosophie de la responsabilité. Elle nous met devant les yeux face à notre responsabilité, à l'égard du sens du monde comme monde commun. Elle nous met face à notre responsabilité de participer consciemment à la constitution du monde. Elle nous met face à notre responsabilité commune d'une tâche interpersonnelle de constitution du monde. Quand on dit que le monde va mal, certes d'un certain point de vue, mais d'un autre point de vue, il reste à construire. Libre à nous, responsable à nous, de le constituer par la bonne intention, par l'intention qui nous convient. Alors, pour reprendre le si beau titre du livre de Jacques Lucéran, alors, dans la conscience de cette responsabilité, le monde commence aujourd'hui. Il en va pour nous et pour le projet de l'Ethnocafé de travailler à cette autre culture qui est décrite ici. À cette autre culture que celle fondée sur l'objectivisme ou sur le naturalisme. Une culture où se constitue nécessairement une forme de communauté d'un genre particulier, comme le dit Husserl dans son livre, dans sa conférence « La crise de l'humanité européenne et la philosophie » en 1935. Il dit « Il se constitue nécessairement une forme de communauté d'un genre particulier, une communauté où le travail se fait les uns avec les autres et pour les autres, où la critique s'exerce dans l'entraide mutuelle et par laquelle la validité pure et absolue de la vérité appartient comme un bien commun. » Le monde commence aujourd'hui.